Vous voulez bien prendre avec moi Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, et nous allons considérer ensemble une phrase qui se trouve au verset 10. Mais nous allons lire du verset 1 au verset 11. Apocalypse chapitre 1, premier verset, écoutons la parole de Dieu, la révélation de Jésus-Christ en fait. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui ou celle qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, référence au Saint-Esprit, et de la part de Jésus-Christ, donc Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, et maintenant Dieu le Fils, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Voici le souhait pour vous, que la grâce et la paix vous soient données de la part de la Trinité. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui pars avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois. Écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voici la parole de Dieu. Et je veux considérer ensemble cette phrase au verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Ou comme dit notre traduction, le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Alors il y a d'abord deux idées. Il y a l'idée de l'Esprit, être dans l'Esprit. En fait, là, il n'y a pas d'article, c'est en esprit tout simplement, dans l'original, qui pourrait donc faire référence même à l'esprit humain, c'est-à-dire il est en esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit, dit Jean. Et là, il est dans l'esprit. Mais il y a certainement, même si ça parle de son esprit, une référence quand même au Saint-Esprit, qui est avec lui, qui va lui montrer des choses qui ne sont pas physiquement visibles. Il va aller dans le domaine de l'esprit, grâce à l'Esprit de Dieu. Mais ce qui m'intéresse surtout ce soir, c'est considérer cette phrase, le jour du Seigneur. Alors, il y a des phrases dans la Bible qui sont tellement importantes qu'il vaut la peine de nous ralentir et de les considérer. Et cette phrase, le jour du Seigneur, ici, est vraiment une phrase très importante. Il faut que nous puissions bien la comprendre. Qu'est-ce que c'est le jour du Seigneur? Eh bien, Il faut noter d'abord que ce n'est pas la même chose que ce qui parfois dit le jour, traduit en français le jour du Seigneur, ou qui est une traduction de l'hébreu le jour de l'Éternel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ça parle souvent du jour de l'Éternel. C'est un jour de jugement. Et ça revient aussi dans le Nouveau Testament en parlant du jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le jour qui viendra, quand Christ reviendra. Mais dans le grec ici, c'est une autre phrase totalement différente. Et c'est un mot très spécifique pour Seigneur qui est utilisé que deux fois dans la Bible. Et je cherchais, mais comment pourrait-on le dire en français? J'ai dit, bon, peut-être on pourrait dire le jour seigneurial. J'ai dit, bon, il faut que j'invente un mot. Et donc j'ai écrit ça en Word et il n'y avait pas de ligne rouge en dessous. Je me suis dit, ah, c'est bizarre parce que j'ai souvent l'habitude de voir la ligne rouge qui me dit que j'ai mal épelé le mot. Et donc j'ai mis ça dans le dictionnaire et en fait, c'est déjà un mot. C'est un vrai mot. Le jour seigneurial. Ou le jour, quelqu'un peut me donner un autre mot pour seigneurial, qui va être plus connu, le jour dominical. Le jour dominical. Et en fait, si vous cherchez dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est le mot dominical, vous allez trouver comme première définition qui vient du Seigneur de Jésus-Christ. Parce que le mot dominus est le mot latin pour maître ou pour seigneur. Et c'est vraiment cette phrase spécifique ici. Pas le jour du Seigneur, mais le jour seigneurial ou le jour dominical. Et nous avons, bon, pas dans nos milieux, mais on parle ailleurs d'une oraison dominicale. Est-ce que vous savez ce que c'est? Enfin, l'oraison dominicale. Raison, c'est une prière. La prière dominicale fait référence à quelle prière dans la Bible? Ce que nous, on appelle le Notre Père, parce que c'est la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. En anglais, nous l'appelons en fait « the Lord's Prayer ». C'est ça le titre pour cette prière, la prière du Seigneur. La prière qu'il a enseignée à ses disciples. En français, on dit souvent le Notre Père, qui sont les deux premiers mots de cette prière. Mais c'est la prière que le Seigneur a enseignée. On appelle ça parfois la prière dominicale. Et puis, la deuxième définition, donc il y a un qui est référence au Seigneur Jésus-Christ, et deux, dans le dictionnaire français, il va dire qu'il y a référence à quoi? Dimanche. Alors pourquoi pensez-vous qu'en français, dominical, qui en fait vient d'un mot latin pour seigneur, fait référence à dimanche? Ben, vous avez la réponse devant vous, en fait, en Apocalypse 1:10, qui appelle ce jour le jour dominical dans le latin, le jour du Seigneur. Ça, c'est le jour du Seigneur. Et en français, j'ai regardé un peu l'histoire de ce mot dominical. Ça vient du latin. On le trouve dès 1417, relatif au Seigneur, et puis dès 1493, relatif au dimanche, le jour du Seigneur. Donc, des lectures dominicales. Nous avons même ça sur le programme, lecture dominicale. Et on a la lecture pour dimanche. Donc, ça, quand il parle ici du jour du Seigneur, il parle de quel jour? Pas un jour futur, pas le jour de l'Éternel, mais il parle du dimanche. Il parle du dimanche. Et presque tous les interprètes, sans exception que j'ai pu trouver, je suis sûr qu'il doit y avoir des exceptions quelque part, reconnaissent que c'est de quoi il parle ici. Dimanche, mais il l'appelle ici le jour du Seigneur. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église chrétienne, on le trouve même utilisé par Ignace d'Antioche, qui était contemporain de Jean même, qui a connu Jean, et il utilise clairement ce même titre pour parler de dimanche. Et donc, quand vous ouvrez certaines traductions en français, par exemple la parole de vie, vous allez trouver ça. Un dimanche, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Bon, c'est une interprétation, mais c'est une interprétation correcte. Mais je préfère quand même utiliser ce mot du Seigneur. Le jour du Seigneur, le jour dominical. Alors, je vous ai dit que ça apparaît que deux fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et les deux fois, ça identifie quelque chose qui est spécifique au Seigneur. Quelque chose qui lui appartient. Est-ce que vous pouvez deviner où se trouve l'autre occurrence? Quelque chose du Seigneur, qui est vraiment à lui. Alors, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et ça parle de quoi? Le repas du Seigneur. C'est 1 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas. Et puis, il y a ce mot très spécifique qui apparaît que deux fois. C'est le repas du Seigneur. Et je crois qu'il y a des parallèles à apprécier, à voir entre ces deux occurrences dans la Bible. C'est le même Saint-Esprit qui a inspiré deux fois le même mot et que deux fois. C'est-à-dire, on ne va pas le trouver ailleurs. On le trouve que deux fois. Et en interprétant ces mots par leurs occurrences, ben nous voyons que le repas du Seigneur était un repas spécial, un repas qu'on mettait à part. Il dit même, si vous voulez manger pour vous-même, vous pouvez manger chez vous. Mais ça, il faut pas le traiter comme commun. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qu'on met à part. C'est pas mon repas. C'est pas le repas de cette église. C'est pas le repas des baptistes. C'est le repas du Seigneur. C'est son repas. Et ce même mot appliqué à un jour de la semaine, ça c'est le jour du Seigneur. C'est pas un jour comme les autres. C'est un jour mis à part. C'est un jour qui appartient au Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de dimanche? Alors, quelques observations bibliques, je crois. Et le premier, c'est que ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas le sabbat. Il y avait dans l'Ancien Testament ce rythme de tous les jours. Et le rythme commence où dans l'histoire de la Bible? Le rythme de 7 jours. Ça commence dans la création. C'est un rythme que Dieu a établi. Nos corps, tout ça, il nous a créé pour ce rythme de 7 jours qui se répète et qui se répète. Et le sabbat tombe quel jour de la semaine? Le dernier jour qui est le samedi. Okay? Quand on regarde les calendriers, on voit lundi qui est le premier jour de la semaine. Mais en fait, historiquement et bibliquement, quel est le premier jour de la semaine? C'est dimanche. Et malheureusement, de l'anglais, vous avez le week-end, hein, la fin de la semaine, qui est samedi et dimanche. Mais historiquement et bibliquement, dimanche n'est pas le week-end, c'est le début de la semaine. Mais le sabbat tombait le septième jour. Et pourquoi est-ce que nous ne nous réunissons pas le samedi? Pourquoi nous n'observons pas le sabbat comme le jour de la semaine? Pourquoi sommes-nous convaincus que quand Jean dit c'était le jour du Seigneur, il parle du dimanche et il ne parle pas du samedi? Alors, plusieurs raisons. Une raison, je note au début, c'est que le seul des 10 commandements jamais répétés, donnés dans le Nouveau Testament est ce 4e commandement de garder le sabbat. C'est intéressant que nous trouvons les 9 autres, mais pas celui-là. En lui-même, ça serait peut-être pas convaincant, Mais nous avons aussi dans le Nouveau Testament l'interdiction de faire du calendrier de l'Ancienne Alliance la norme. Il y a une interdiction très claire en Colossiens chapitre 2 verset 16 où l'Esprit dit par Paul que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des quoi? Sabbat. Et quand il dit manger, boire, fête, nouvelle lune, sabbat, il pense à quoi? Spécifiquement, c'est très clair à quoi il pense. Il pense à quoi? Quelqu'un va me le dire? Le calendrier de qui surtout? Des juifs. Voilà, il pense au calendrier juif parce qu'il dit juste après, c'était l'ombre des choses à venir. Donc il ne parle pas ici des rituels païens, même. Il parle ici spécifiquement du calendrier de l'Ancienne Alliance. Il dit, mais c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, manger, boire, bon, dans l'Ancien Testament, il y avait des rituels très spécifiques par rapport à manger et boire. Une fête, une nouvelle lune, tout ça, il y avait aussi des fêtes dans l'Ancienne Alliance. Des sabbats, tout de suite, les Juifs vont savoir de quoi ils parlent. Il dit que personne ne vous juge selon toutes ces choses, y inclut les sabbats. Et donc, il y a cette interdiction de faire du calendrier de l'Ancienne Alliance la norme. Et puis, troisièmement, il y a aussi l'abrogation de l'Alliance dans le sabbat était le signe. En fait, cette Alliance de Moïse a été abrogée, c'est-à-dire elle a été mise de côté et terminée. Et quel était le signe de l'Alliance, l'Ancienne Alliance? Est-ce que vous savez? Bon, si on prend les alliances en ordre, il y a l'alliance avec Noé, qui est une alliance faite avec le monde entier. Tout le monde participe à cette alliance que Dieu a faite. Il a fait des promesses à toute la création. Et quel est le signe de cette alliance? L'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Et c'est beau parce que le signe, c'est aussi inconditionnel. C'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait. Ça vient de lui, parce que l'alliance vient de lui. Deuxième grande alliance dans la Bible, c'est l'alliance faite avec qui? Abraham. Abraham et ses descendants. Et le signe de cette alliance, c'est quoi? Sa circoncision, qui était, bon, faite avec des mains d'hommes, certes, mais ces personnes le faisaient à lui-même. C'était les parents qui le faisaient aux enfants. En fait, c'était un signe qui se reportait à chaque fois sur la nouvelle génération. Chaque fois qu'on avait un bébé, le signe venait pour cette nouvelle génération. Et donc, c'est un signe approprié à une alliance faite avec quelqu'un et ses descendants. Et on arrive donc à la troisième grande alliance, qui est l'alliance faite avec Israël, mais par le biais de Moïse. Et je vous lis Exode 31, verset 13. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Exode 31, 13, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Alors le signe ici suggère que c'est le sabbat. Et on le retrouve en Ézéchiel, je vous lis deux versets d'Ézéchiel, d'abord le verset 12. « Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Et le verset 20, Ézéchiel 20, 20, « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Donc le signe associé à cette alliance, c'est le sabbat. Et là aussi, c'est approprié parce que l'alliance faite avec Moïse était une alliance conditionnelle. C'est-à-dire, ça commençait avec le mot « si ». « Si vous faites, je ferai. Si vous faites. » Mais ça exigeait une obéissance totale et perpétuelle. Parce qu'on ne pouvait pas dire « bon, j'obéis pendant 10 ans et puis j'arrête ». Non. Pour faire partie de cette alliance, c'est total et c'est perpétuel. Il ne faut jamais arrêter d'obéir. Et donc, le signe est un signe volontaire personnel et perpétuel aussi. Chaque fois, il faut garder le signe qui est le sabbat. Et comme avec celui qui refusait de circoncire son fils, on devait le mettre à mort. La Bible dit que celui qui refusait de garder le sabbat, et ça c'est même, il y avait même un cas où ça s'est produit dans le désert. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis à mort. Donc, cette alliance a été abrogée, mise de côté. Et aussi, donc, le signe de cette alliance. Alors, pourquoi est-ce que nous adorons donc le dimanche? Alors, je vais rapidement essayer de vous donner l'argument théologique, puis l'argument historique. L'argument théologique est basé sur le psaume 118, où il dit, je vais sauter un peu dans mes notes, il dit, verset 22, le psaume 118, verset 22, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et le verset 25 dit, « Ô Éternel, accorde le salut. » Et vous savez qu'en grec, cette phrase, « Ô Éternel, accorde le salut », la forme grecque de cette expression hébraïque est le mot « Hosanna ». Hosanna. Et même si vous regardez dans vos Bibles, quand il parle de Jésus, quand il entre et les gens crient « Hosanna », vous allez chercher, si vous avez des liens, ils vont vous donner le psaume 118, verset 25. Parce que ceux qui crient, c'est « Ô Éternel, accorde le salut ». C'est ça l'idée. Et là, il entre. Celui qui doit accorder le salut. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Il est rejeté et il est tué. Alors, je vous demande de trouver Acte chapitre 4. Vous avez peut-être lu tout à l'heure, Acte chapitre 4. Là, il y a Pierre et Jean qui sont devant les sacrificateurs, les chefs, si vous voulez, religieux, ces bâtisseurs de la nation. Et ils étaient en train de prêcher, le verset 2 dit... dans la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ça, c'est ça qui est central à ce récit. Ils sont là en train de prêcher la résurrection des morts, c'est-à-dire Jésus est ressuscité des morts. C'est ça vraiment qui les fâche, on va dire. Et donc verset 3, ils mirent la main sur eux, ils jettent en prison. Le lendemain, jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Et puis... bon, ils n'arrivent pas quand même à minimiser le dégât parce que verset 4 dit « Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent quand même et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Donc on voit la croissance de l'Église. Mais le lendemain, verset 5, ils s'assemblent. Et vous avez ici les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Vous voyez, c'est vraiment dépeint comme il y a tout le monde qui est important. C'est la description du rassemblement officiel du Sanhédrin, des Juifs qui dirigeaient la nation, bien sûr, sous Pilate. Et ils firent placer au milieu de verset 7 Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait tout cela? Alors c'est intéressant, normalement ils sont là pour se défendre, mais un peu ils se mettent à l'attaque. Pierre, il a beaucoup d'audace et beaucoup de courage en leur parlant. Et bon, je saute au verset 10, il dit « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. Donc voici la résurrection, un véritable signe d'approbation. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc son argument est celui-ci. Le salut de Dieu est venu par le biais d'un instrument que vous avez rejeté, rejeté par les hommes. Et on pourrait se dire, mais comment cela aurait pu se passer? Vraiment, même logiquement, comment est-ce que l'agent choisi de Dieu pour apporter le salut, le Messie, n'a pas été reconnu par nous, les chefs? C'était ça l'argument qu'ils ont donné une fois. Mais il a dit, mais qui parmi nous, ils diront ça plus tard, mais qui parmi nous croit en cet homme? C'est impossible que quelqu'un de si grand aurait pu être négligé par nous. C'était ça la confiance qu'ils avaient, parce que personne d'entre eux n'y croyait. Et maintenant, remarquez un passage de l'Ancien Testament auquel Pierre fait référence, fait appel pour prouver ce qu'il vient de dire. Verset 11. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. » Et il cite le psaume 118. Mais il ajoute le pronom « vous » pour identifier les constructeurs ou les bâtisseurs. « Vous les chefs dirigeants. » Vous les prêtres du peuple. Il identifie également la pierre comme qui? Jésus-Christ. Donc vraiment, il nous interprète le verset. Le psaume disait la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Pierre, il dit la pierre Jésus-Christ que vous avez rejetée. Et vous l'avez rejetée, mais notez ce qui est arrivé à cette pierre et qui est devenue la principale de l'angle. La pierre angulaire en chef. Et donc on se pose la question, mais quand est-ce que la pierre ici, qui maintenant nous savons est identifiée comme le Christ, qui a été rejetée par les bâtisseurs, dont nous savons maintenant ce sont les dirigeants juifs, quand est-ce que Dieu l'a fait devenir la pierre angulaire? Quand est-ce qu'il a, c'est comme s'il a pris cette pierre, il a dit, je la place au plein centre. Quand est-ce que Dieu a fait ça? Et la réponse se trouve en comparant les versets 10 et 11. Regardez les versets 10, acte 4, 10. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a, quoi? Ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Dans le verset 10, Pierre identifie Jésus au nom duquel cet homme a été guéri par deux phrases qui décrivent Jésus. Ils sont tous les deux introduits par le mot « que ». Il dit, regardez-les encore, « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth » Numéro 1, que vous avez crucifié, et numéro 2, que Dieu a ressuscité des morts. Voilà de qui je parle. Jésus, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, c'est deux réalités. Vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, a été prédit par le psalmiste. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et, 2, est devenu la principale de l'angle. Donc, rejeté par vous qui bâtissez, fait référence à quoi? Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, devenu la principale de l'angle, eh bien, fait référence donc que Dieu a ressuscité des morts. Vous voyez ça? Jésus que vous avez crucifié, rejeté, Dieu a fait la principale de l'angle en la en le ressuscitant des morts. Donc, la signification de la résurrection, c'est que c'était Dieu prenant un homme qui avait été jeté de côté, mis à la poubelle, si vous voulez, et a fait de lui la pierre angulaire. Christ était le salut de Dieu pour l'homme, mais l'homme ne voulait pas de ce salut, donc il l'a rejeté. Et Dieu les a laissés rejeter. Jusqu'au point où vraiment il fut complètement rejeté par les hommes. Même par les constructeurs d'Israël. Mais Dieu, à ce moment-là, il est intervenu et il a fait de lui la pierre angulaire. Et pourquoi la résurrection donc est importante? C'est parce que Dieu prend ce que l'homme a rejeté et fait de lui la pierre angulaire. Et quelle est l'application que Paul voudrait qu'on tire? Bon, certainement que ça change notre compréhension du salut. Parce que qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Il n'y a du salut en aucun autre. C'est lui que Dieu a choisi. Et on pourrait parler de ça, mais pour ce soir, il y a un effet aussi pour notre adoration. Et si on revient au moins dans notre esprit au psaume 118, la pierre qu'on a rejetée, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici, et ici c'est fait quoi? Quand il a fait de la pierre rejetée la principale de l'angle, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est pas l'homme qui a fait ça. Ça, c'est un jour, c'est une journée créée par Dieu. Alors qu'elle soit, quelle, cette journée, soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Il parle de dimanche, le jour de la résurrection. Est-ce que cette journée devienne pour nous un sujet d'allégresse et de joie? Et c'est pour ça, j'avance rapidement, c'est devenu donc le pratique de l'histoire. On pourrait lire en Jean 20, je ne vais pas prendre le temps, mais c'est le soir de ce jour. Et la Bible spécifie en Jean 20, 19, qui était le premier de la semaine. Les portes étaient fermées et Jésus arrive et leur dit « La paix soit avec vous ». Et bon, je vous lis le verset 20. « Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Imaginez, ce jour a tout changé pour eux. Vendredi, triste et abattu. Samedi, triste et abattu. Dimanche arrive, ils ont toujours les portes fermées. Mais avant la fin de la nuit de ce jour, tout change. Ils sont remplis de joie. Ils sont remplis de joie. Et c'est intéressant que le Pentecôte, qui est la fête des semaines, Pentecôte, c'est un mot grec qui veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un le sait? On parle du Pentateuque, qui veut dire 5. Pentecôte veut dire 50. Et je vous lis juste le verset qui nous dit quand cette fête devait tomber. Lévitique 23, 15 et 16. Il dit « Depuis le lendemain du sabbat, le jour où vous apportez la gerbe pour être agitée du côté d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Juste 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat. Pourquoi Dieu a dit ça en Lévitique? Pas le sabbat, mais il devait garder le sabbat. Et puis le lendemain du sabbat, qui est donc le premier jour de la semaine, donc un dimanche, et là vous allez garder une fête qui parle des prémices. Et là, ben, le jour de Pentecôte, nous savons le jour que c'est pour l'Église, quand l'Esprit est donné. Mais je vous lis aussi en Actes 20, 6 et 7, pour vous montrer un peu la pratique de l'Église. Paul voyage ici, il dit « Après les jours de pain sans levain », c'est lui qui parle, « Nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignâmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. » C'est intéressant qu'ils arrivent dans la ville de Troas, ils passent plusieurs jours. Mais il spécifie au verset 7, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et c'était, ils sont là 7 jours et Paul ne veut pas partir avant le premier jour de la semaine quand ils seront tous réunis pour rompre le pain. C'est le lendemain qu'il partira, mais le lendemain du premier jour. Donc on voit déjà que Le mot me manque, mais le rythme de l'Église était déjà basé sur ce premier jour de la semaine. Et puis je vous lis 1 Corinthiens 16, 1 et 2. Là, il parle de l'argent et de la collecte en faveur des saints. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dents. Donc, on peut mettre à part n'importe quel jour. Pourquoi il spécifie c'est le premier jour de la semaine? Parce que c'était un acte d'adoration. Et ce jour était spécial et mis à part par l'Église. Et donc, il y a l'argument historique que nous voyons depuis le début et puis les siècles après l'ont gardé. Et puis, il y a cet argument, je vais appeler ça l'argument nominatif, où la Bible donne ce titre à dimanche, le jour dominical, le jour du Seigneur, c'est mis à part par Dieu. Alors, quelle application pouvons-nous tirer de cela? Bien, je vous lis juste ces versets pour terminer en Ésaïe 58, 13 et 14. Dieu dit cela, Ésaïe 58, 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire de ta volonté, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. » Littéralement, comme dit le Darby et d'autres, le saint jour de l'Éternel, ou la Nouvelle Bible Seconde, le jour sacré du Seigneur. Donc le sabbat était considéré comme le jour du Seigneur. Donc il y a des parallèles. On n'observe pas le sabbat, mais on peut tirer des parallèles. Parce que le sabbat était le jour du Seigneur. Et maintenant, il nous dit, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et surtout, je veux juste vous noter ce qu'il nous dit de faire. Si tu fais du sabbat, ou le jour du Seigneur, le jour sacré du Seigneur, tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants, il y a de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. C'est-à-dire une corrélation entre ce qu'on fait avec dimanche, le jour du Seigneur, le sabbat ou pour nous le dimanche, et le plaisir qu'on trouve en l'Éternel. Et je sais que ça a été un lutte. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont lutté entre le jour du Seigneur et le foot pendant longtemps. Et il y a encore des luttes entre un travail et le jour du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons de ce jour du Seigneur? Vous savez, entre ici et le 13 octobre 2018, vous allez passer un mois de jour du Seigneur. En 7 mois, un mois total sera dimanche. N'est-ce pas? Je calcule. Bien, un mois entre ici et le 13 octobre, en 7 mois, vous aurez passé un mois total de jours du Seigneur. Si on les utilisait sagement. Depuis 2011, jusque maintenant, vous avez passé un an de jours dominicales. Un an. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2011 avec nos jours que la Bible appelle jour du Seigneur, où il nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse dans ce jour. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces 365 jours du Seigneur depuis 2011? Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous aurez passé 10 ans de jour du Seigneur. Et je suis convaincu que notre croissance est limitée si nous insistons à voir le jour du Seigneur comme un jour commun, comme ceux qui faisaient avec le repas, ils le voyaient comme un repas commun, comme les autres. Je suis sûr que notre croissance dans le Seigneur et même le plaisir qu'on trouve en Dieu sera limité parce qu'on dit non, c'est un jour commun, comme les autres. Alors, ce n'est pas pour établir des règles, mais c'est pour, comme dit Ésaïe 58, faire un délice et nous réjouir Alors, je termine en vous suppliant, en vous demandant, que faites-vous avec le jour du Seigneur? Quand vous vous levez dimanche matin, ne vous dites pas, c'est mon jour à moi, finalement. Ça, c'est le jour du Seigneur. L'Éternel a fait qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, change nos pensées par rapport au jour du Seigneur, et que ce soit pour ta gloire, mais pour notre délice, pas pour être un fardeau, mais pour en fait remplir nos cœurs de joie en toi et pour nous faire grandir. Amen. Que Dieu vous bénisse.